voudrais faire avant d'amorcer une discussion avec vous, c'est, si la technique veut bien suivre, c'est de vous faire partager ce que j'ai fini par comprendre commerce équitable, tout simplement en commençant par me poser des questions. Et j'ai la chance de faire un métier qui me donne la possibilité aussi de les poser à des chercheurs qui travaillent sur cette question, mais aussi à des acteurs, des chefs d'entreprise, des militants qui ont bien connu l'histoire du commerce équitable et qui m'ont permis de bien comprendre les principes, les difficultés auxquelles aussi est confronté ce nouveau domaine. Alors, pour commencer, le commerce équitable, pourquoi ? Pourquoi à un moment donné on a éprouvé le besoin de parler de commerce équitable ? Eh bien, tout cela découle d'un constat très simple. Un constat très simple, c'est qu'il y a des petits producteurs dans les pays du Sud qui vivent sur des exploitations de 2 à 3 hectares. 2 à 3 hectares, c'est pratiquement 6 stades, 6 terrains de foot, pour vous donner une idée. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup lorsque vous cultivez du cacao, du café ou du thé, etc. C'est pas énorme, mais en même temps, quand vous êtes confronté à la concurrence internationale. Et le constat, c'est que ces petits producteurs sont appauvris par le commerce international. C'est que le fait d'exporter, de s'engager dans le commerce international, les entraîne dans une logique, dans une spirale de paupérisation. Ce qui est un vrai paradoxe, parce qu'il y a d'abondantes théories qui ont prétendu que justement le commerce international pouvait contribuer à l'enrichissement des nations, justement en les incitant à se spécialiser. Alors comment expliquer ce paradoxe ? Eh bien parce que nos petits producteurs isolés sont dépendants des cours mondiaux qui sont fixés par les grandes compagnies et les bourses spécialisées dans le négoce du café et installées à New York ou du chocolat, etc. Et puis une concurrence, une exposition à la concurrence de l'agriculture industrielle. Nos petits producteurs sont démunis face au grand système de plantation. Et puis, il y a une théorie de l'échange inégal qui explique l'appauvrissement par le fait que ce qu'ils exportent, ils l'exportent à des prix qui ne sont pas fixés par eux, alors que ce qu'ils importent, les produits manufacturés, les engrais, etc., sont déterminés par les pays producteurs, les pays du Nord, d'où un échange inégal qui contribue à cet appauvrissement. Et la conséquence, elle est toute simple, c'est des ventes à perte, une dépendance de nos petits producteurs à l'égard de ce qu'on appelle les usuriers. Faute de trésorerie, ils doivent emprunter, s'endetter. Certains doivent finir par vendre une partie de leur parcelle, voire de leur cheptel, etc. Bref, ils entrent dans un cycle de paupérisation. Alors, face à ce constat, le commerce équitable repose sur un principe tout simple, c'est de créer les conditions permettant à nos petits producteurs d'exporter en pouvant vivre de leur production, donc en exportant à un coût qui couvre qui couvre les frais de production. Vous allez me dire, mais c'est la moindre des choses, sauf que ce n'était pas la situation, et c'est toujours pas la situation de la majorité de nos petits producteurs à travers le monde. Alors, un exemple, le café, eh bien, le cours mondial en 2008, je prends cet exemple, était fixé à $150 les 100 livres. Donc si vous vouliez du 100 livres de café sur le commerce international, eh bien il vous en coûtait $150. Eh bien, dans le cadre du commerce équitable, on va assurer ce niveau de rémunération aux petits producteurs. C'est le cas de la société Éthicable, sur laquelle je reviendrai. Elle est spécialisée dans la conception de produits issus du commerce équitable. Donc elle assure un achat à un prix supérieur. Vous ne le voyez pas sur l'écran, c'est $190 les 100 livres, qui comprennent en fait les 150, le cours mondial, plus une prime de développement, $10, et puis un supplément de 30 dollars pour aider la société, le petit producteur, à se développer davantage. Le commerce équitable, c'est ça. C'est on assure un prix d'achat supérieur. Je pourrais prendre un autre exemple, celui du cacao, mais je préfère qu'on y revienne tout à l'heure éventuellement. Mais le commerce équitable, ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça. C'est aussi l'assurance donnée aux petits producteurs de s'inscrire dans un engagement durable, dans une transaction durable. Et ça, c'est très important pour les petits producteurs qui sont confrontés en permanence à l'incertitude quant à ce que le lendemain sera fait. Là, la société comme équitable s'engage à lui acheter régulièrement une partie, toute ou une partie de sa production. Ce qui change pas mal de choses, ce qui permet à notre petit producteur de se projeter dans l'avenir. Vous allez me dire encore une fois, mais c'est la moindre des choses. Sauf que ce n'est pas la situation que connaissent la majorité de nos petits producteurs à travers le monde. Donc on s'engage à leur acheter toute ou partie de leur production, ce qui leur permet de se projeter, de planifier leur activité. Mieux encore, on préachète cette production, c'est-à-dire on leur avance, ce qui change tout, ce qui leur permet d'éviter de recourir à aux fameux usuriers qui leur faisaient des prêts mais à un taux excessif et qui donc contribuaient à leur endettement. Et puis on les accompagne dans leur développement en leur aidant, en leur permettant d'accéder à de l'équipement moderne, des méthodes agronomiques plus élaborées. Et puis c'est aussi un des apports essentiels du commerce équitable, c'est on les incite à se regrouper dans des coopératives. Parce que tout simplement, plus on est nombreux, plus on est fort, plus on arrive à se faire entendre des autorités locales, voire des autorités nationales. Et ça, c'était un enjeu majeur pour ces petits producteurs qui, isolés, n'arrivaient pas à se faire entendre de leur autorité, du pouvoir, qui n'entendaient que les positions, au demeurant légitimes, des grands opérateurs, des industries agroalimentaires ou des grands systèmes de plantation. Donc vous voyez, le commerce équitable, c'est bien plus que ce à quoi on le résume le plus souvent, c'est-à-dire l'achat à un prix supérieur aux cours mondiaux, en tout cas à un prix qui assure, qui couvre au moins les frais de production. Alors, je passe sur d'autres choses, parce que le temps passe, mais disons que c'est encore bien d'autres choses, c'est d'aider, ça consiste à aider ces producteurs à avoir aussi une vraie attitude professionnelle, entrepreneuriale, à essayer de comprendre les marchés, les demandes, les attentes des consommateurs. Donc c'est un apprentissage économique. L'idée n'est pas d'acheter des produits issus du commerce équitable pour faire plaisir, par charité, mais vraiment en tant que consommateur. Et on doit assumer, nous autres consommateurs, des exigences et pour pousser ces petits producteurs à se professionnaliser et améliorer la qualité de leur production. Et c'est l'un des objectifs aussi du commerce équitable. Un autre objectif du commerce équitable, c'est de les accompagner sur le plan technique et organisationnel. Je l'ai évoqué, ce que je dis là, c'est une autre manière de dire ce que j'ai dit précédemment, en les professionnalisant, en améliorant la qualité des produits utilisés, en leur permettant aussi, alors là c'est une formule qui peut paraître un peu énigmatique, les aider à accroître la valeur ajoutée. C'est-à-dire que ça consiste concrètement à les aider à produire sur place, à transformer sur place les matières premières. C'est-à-dire, par exemple, à produire des confitures sur place et à les exporter afin de réaliser une valeur ajoutée plus importante, des gains financiers plus importants que s'ils vendaient la matière brute. Hein, le commerce équitable a aussi cette finalité-là. Alors, il y a aussi un accompagnement sur le plan social, avec l'idée de faire du commerce équitable un levier d'amélioration du cadre de vie pour les producteurs et leurs familles, en aidant au financement d'équipements pour améliorer l'accès à l'eau potable, la qualité des routes, la construction de fours, etc. etc. Donc, il y a des implications multiples, sans oublier, bien sûr, les implications environnementales. Le commerce équitable, on y reviendra sans doute à travers vos questions, vise aussi à accompagner les producteurs vers des modes de production, d'agriculture, d'agronomie, plus respectueuses de l'environnement. Alors, cela dit, on aura l'occasion d'y revenir, nos petits producteurs qui produisent sur 2 à 3 hectares, eh bien, ils n'ont pas forcément les moyens de s'équiper en machines polluantes et n'ont pas non plus les moyens d'utiliser des engrais chimiques. Donc, contrairement à ce qu'on croit, l'effort qu'ils ont à faire sur ce plan-là n'est pas si important. En soi, les produits issus du commerce équitable, parce que issus d'agriculture traditionnelle, sont déjà des produits intéressants, des produits bio à leur façon. Mais je reviendrai sur cet aspect des choses. Alors, je viens de rappeler les principes, on pourra y revenir plus en détail à travers vos questions. Ce sur quoi je voudrais vous insister, parce que pour moi ça a été aussi un sujet d'étonnement, je vous ai dit que j'ai découvert le commerce équitable il y a quoi, une dizaine d'années, mais en fait c'est une vieille histoire le commerce équitable. C'est une très vieille histoire qui commence en fait dès l'après-guerre. Alors, moi en tant que journaliste, je m'intéresse beaucoup à l'apparition des mots dans les débats publics, mondialisation, développement durable, commerce équitable. Je me dis toujours que ça signifie quelque chose, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Quand un mot nouveau ou ancien revient à la surface, revient dans les débats publics, c'est que ça traduit des changements de mentalité dans la manière d'aborder des enjeux de société. Et bien, il faut savoir que le commerce équitable fait partie de ces mots nouveaux qui est apparu à la fin des années 80 en France, en tout cas dans la langue française, et qui a permis d'éclairer rétrospectivement toutes sortes d'initiatives auxquelles on ne prêtait pas attention, mais qui à leur façon étaient déjà des contributions à ce qu'on appelle aujourd'hui le commerce équitable, en espérant ne pas avoir été confus. Toujours est-il que dès l'après-guerre, vous avez des communautés religieuses qui se mobilisent aux États-Unis pour secourir des réfugiés, non pas en leur donnant l'aumône, mais toujours dans l'idée de faciliter l'accès de leurs produits. En l'occurrence, là, c'était des produits essentiellement artisanaux. Les produits alimentaires ne seront concernés par le commerce équitable que bien plus tard. C'est le cas, par exemple, de l'association qui existe toujours, qui est une puissante organisation d'inspiration chrétienne, hein, d'obédience chrétienne aux États-Unis et au Canada, 10,000 Villages, et qui importait dès le lendemain de la guerre des broderies de bois ciselées de Palestine, de Haïti, etc. Donc on ne parlait pas de commerce équitable ou de fair trade, mais on retrouve déjà le principe, c'est de faciliter l'accès de nos marchés à ces petits producteurs en leur assurant un prix qui couvre les frais de production. D'accord ? Mais la véritable histoire du commerce équitable débute en fait dans les années 60 avec un moment fort, c'est dont on a peut-être dû vous parler dans vos cours d'histoire, c'est la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Ça fait partie de ces nombreuses enceintes qui permettent aux États de débattre d'enjeux. En l'occurrence, la CNUSED est spécialisée dans les débats autour des questions de commerce et de développement. Et en 64 se tient donc la première conférence de ce type, et il y a ce constat que j'évoquais en préambule, c'est les effets pervers du commerce international qui pénalise les petits producteurs des pays du Sud. Force est de constater que de toute une tradition de penseurs qui remonte jusqu'à Montesquieu, qui parlait de doux commerce, qui considérait que le commerce était une manière de pacifier les relations entre les nations, sur quoi il n'avait pas forcément tort. Mais de là est née toute une tradition de pensée qui a considéré que le commerce ne pouvait que faciliter l'épanouissement, l'enrichissement des nations qui s'y engageaient. Eh bien non, force est de constater au milieu des années 60 que ça contribue au contraire, pour les raisons que j'ai expliquées, à l'appauvrissement de petits producteurs. Plus ils s'engagent dans le commerce international, plus ils s'appauvrissent. Alors, c'est une réaction contre ce constat, mais aussi contre un autre constat, c'est que dans ces conditions, l'approche caritative, pardon, l'approche humanitaire, qui a sa raison d'être, qui a son importance, auquel on doit tout notre respect, toute notre attention, n'empêche, cette approche n'est pas forcément la mieux adaptée pour sortir les petits producteurs de la pauvreté. Si on veut les sortir de la pauvreté, il faut leur permettre tout simplement de vivre de leur travail. Et comment le faire? Eh bien, en leur permettant de vendre leur production sur les marchés internationaux à un prix qui couvre les frais de production. D'accord? Et d'où cette formule qui était d'un journaliste, mais qui résume bien l'esprit du commerce équitable, c'est « trade, not aid », c'est-à-dire du commerce, mais pas d'aide. D'accord? Entre parenthèses, plus tard, on a pu constater que le simple fait que d'exporter des vieux vêtements dont on n'a plus usage dans des pays du Sud a eu pour effet de faire péricliter l'industrie textile de ces pays qui était directement concurrencée par les produits textiles en provenance de nos pays et qui étaient distribués à titre gracieux au nom d'une démarche humanitaire, qui n'était pas mal intentionnée, bien évidemment, qui était plutôt bien intentionnée, sauf qu'elle a pu avoir des effets pervers. Et bien c'est un peu ce type de constat qui a pu aussi motiver, inciter à renouveler le commerce dans le sens du commerce équitable. Alors concrètement, ces constats débouchent sur des initiatives très concrètes sous forme de magasins spécialisés. Un peu partout en Europe, en Hollande, en Angleterre, vont voir le jour des magasins qui sont spécialisés dans la vente de produits essentiellement artisanaux et puis progressivement alimentaires en provenance des pays du Sud et où on vous offre la garantie que ces produits sont bien vendus à un prix qui couvre les frais de production de leurs producteurs respectifs. En France, ces magasins spécialisés, ce sont les fameux artisans du monde, dont le premier verra le jour à Paris en 1974. Je ne sais pas s'il y en a un à Mar-en-Bareil oui, à Lille, d'accord. Il pourrait y en avoir un ici, hein. Il y en a plusieurs à travers la France. Alors pour la petite histoire, cette histoire dans l'histoire, elle démarre d'une initiative de l'abbé Pierre qui, en 1971, décide, face à la crise que connaît le Bangladesh suite à des inondations, de mobiliser les collectivités locales. Et c'est une initiative qui va déboucher sur, justement, l'apparition de magasins spécialisés qui s'émanciperont ensuite en s'appelant magasins artisans du monde. Je vous passe les détails. Donc le premier magasin voit le jour en 1974. Si vous allez à Paris, allez rue Rochechouart, il existe toujours. En 81, devant le succès rencontré par ces magasins, on assiste à la création d'une fédération. Puis en 84, de la création d'une centrale d'achat, donc d'un organisme spécialisé dans l'achat en gros pour faciliter ensuite les démarches des magasins spécialisés. Alors, le deuxième tournant, et que c'est sans doute celui que vous avez en tête, hein, quand on dit commerce équitable, on dit Max Havelaar, et c'est vrai, mais en partie seulement, parce qu'avant, il y a eu quand même une sacrée histoire qui perdure. Alors, le label Max Havelaar, que vous voyez, vous aurez l'occasion de le voir de plus près tout à l'heure, parce que j'ai amené pour vous des échantillons de chocolat. Vous garderez l'emballage, mais vous me rendrez le chocolat. Je plaisante. Donc vous verrez tout à l'heure le logo. Mais en quelques mots, il faut garder à l'esprit que derrière le commerce équitable, et c'est en cela que c'est passionnant, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. C'est-à-dire que ce n'est pas des concepts qui tombent du ciel, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui, à un moment donné, se sont mobilisés. L'abbé Pierre, par exemple, en France, ou ces communautés chrétiennes que j'évoquais. Eh bien, Max Havelaar, ce n'est pas tombé du ciel, c'est une invention d'un prêtre ouvrier, toujours vivant, Francisco van der Hoff, qui avait fui le Chili, qui s'est réfugié au Mexique pour travailler, vivre auprès d'ouvriers agricoles, ou plus exactement de producteurs de café du Chiapas. Et il a pu se rendre compte de lui-même de cette paupérisation que je décrivais. Ces pauvres producteurs n'arrivaient pas à vivre de leur activité. Et avec un ami, membre de Solidaridad, qui est une puissante ONG engagée dans l'aide au développement, en 88, il a l'idée, comme ça, suite à des échanges, de créer un logo qui garantira que ce café-ci, en provenance de ces petits producteurs du Chiapas, a été vendu à un prix couvrant les frais de production. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'un label. Le mot label est abusif. Je pourrais vous expliquer en quoi. Il vaut mieux parler de logo. Mais c'est comme ça que débute l'histoire de ce que dont vous avez sans doute entendu parler, mais que vous ne connaissiez justement que qu'à travers ce logo. Alors, toujours pour la petite histoire, pourquoi Max Havelaar ? Eh bien, c'est un personnage qui ne nous dit rien à nous autres Français, mais qui, pour les Hollandais, qui étaient Francisco van der Hoff et Nico Rosen, est un personnage extrêmement populaire, qui est issu d'un roman qui a été publié en 1860 et qui met en scène un négociant de café en Insulande, donc sur l'île de Java, et qui se révolte contre le sort qui est réservé aux petits producteurs de café de l'île. Donc il y avait déjà l'esprit commerce équitable évoqué dans ce roman, sans que pour autant on parle de commerce équitable. Mais c'est un roman qui a marqué Francisco, mais des générations de Hollandais, et qui a donc inspiré le nom du roman, du logo. Alors, le logo indique que le produit a bien été acheté ou conçu à partir de matières premières achetées à une organisation de producteurs du Sud à un prix minimum garanti, avec versement d'une prime pour aider au développement de l'organisation des producteurs et, le cas échéant, d'un préfinancement. Le cas échéant, je crois que maintenant, c'est le préfinancement aussi est obligatoire. Alors, le grand avantage de ce logo, c'est que maintenant, vous pouvez repérer d'emblée, instantanément, un produit issu du commerce équitable d'un autre. Et vous n'avez plus besoin d'aller dans un magasin spécialisé. Ce que certains d'entre nous peuvent faire, mais qui n'est pas donné à tout le monde. On ne peut pas faire une partie de ses courses à tel endroit, puis une autre partie à tel autre endroit. Et c'est pour cela que d'ailleurs le commerce équitable n'arrivait pas à décoller malgré le succès des magasins spécialisés. C'est qu'il fallait y aller, ce n'était pas donné à tout le monde. Et grâce à ce logo, certains disent à cause de ce logo, les produits issus du commerce équitable vont devenir beaucoup plus accessibles en faisant une entrée dans la grande distribution. Alors je ne vous cache pas, et on aura l'occasion de d'y revenir, que ça c'est l'objet d'une grande controverse. Est-ce qu'on peut concevoir que des produits issus du commerce équitable soient commercialisés dans le temple de du commerce et de la grande consommation qui justement contribue à l'appauvrissement de nos petits producteurs? C'est l'objet d'un débat sur lequel on pourra revenir. Ce que je souhaite préciser, parce que le temps passe, c'est que, à l'origine, ce logo ne bénéficiait qu'au café, puis progressivement il a été étendu à d'autres produits, le cacao, le thé, le miel, puis le coton, plus récemment. Le label s'est diffusé internationalement, ce label qui était l'invention de deux Hollandais s'est diffusé au-delà de la Hollande, en Belgique, en France, au début des années 90, en France et en Suisse. Il a suscité l'apparition d'autres labels, transferts en Allemagne, en Autriche, et puis Fairtrade en Angleterre, en Irlande. Et avant que tous ces organismes spécialisés dans la certification ne se fédèrent dans une puissante organisation internationale, FLO, Fairtrade Labeling Organization International. Je vous embête avec tout ça, parce que je crois qu'il est très important de garder à l'esprit que derrière le commerce équitable, il y a des hommes et des femmes, et puis il y a des organisations plus ou moins puissantes qui pèsent sur les débats et qui font aussi évoluer les choses. Les belles idées, les idées auxquelles on doit croire, elles sont aussi portées par des institutions, elles sont aussi du coup l'objet de rapports de force, de rapports de pouvoir, on pourrait y revenir, c'est des enjeux du coup politiques. Alors, vous allez me dire, je ne sais pas, mais c'est bien gentil, mais qu'est-ce qui nous assure que c'est vraiment le cas ? Eh bien, au fil du temps, le constat s'est imposé qu'il fallait aussi contrôler, s'assurer que, effectivement, les sociétés, les marques qui prétendaient vous vendre des produits issus du commerce équitable, c'est-à-dire qui prétendaient avoir acheté la matière première auprès de producteurs à un prix couvrant leurs frais de production, il fallait s'assurer que ce soit vrai. Et donc, cette puissante organisation que j'évoquais, FLO, a suscité la création d'un organisme spécialisé dans le contrôle de l'application stricte du cahier des charges qui est au fondement du commerce équitable. Alors, comment c'est financé ? Eh bien, c'est les marques pour obtenir l'utilisation du label, du logo, pardon, versent une cotisation, une redevance. Voilà, je cherchais le mot. De même que les petits producteurs, les organisations de producteurs, vous allez me dire, mais comment ils peuvent, puisqu'ils sont pauvres, et si on commence, bon, effectivement, ça a été l'objet d'un débat, et qui a débouché sur la création d'un fonds qui contribue à aider ces organismes, ces coopératives de producteurs, à payer leurs redevances pour entrer dans la filière du commerce équitable. Alors, depuis les années 2000, le commerce équitable a gagné en notoriété, tous les sondages l'indiquent régulièrement, le commerce équitable est quelque chose qui est rentré dans le paysage français et dans d'autres pays. Il y a la quinzaine du commerce équitable, je rappelle que en 2011, donc cette année, elle se tiendra du 14 au 29 mai, et c'est une manifestation qui contribue à populariser, qui a contribué à populariser le commerce équitable. Hein. C'est pas imposé comme ça du jour au lendemain. Il a fallu faire un travail de terrain. Bon, je passe sur un certain nombre de détails. Depuis les années 2000, pardon, popularisation, diffusion en grande surface, non sans que ça pose des problèmes, implication des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ont fini par comprendre, c'est-à-dire les gouvernements, l'État, les collectivités locales, ont fini par comprendre qu'il y avait quelque chose, un phénomène d'ampleur croissante qui était digne d'intérêt, et ces pouvoirs publics se sont impliqués pour réguler, pour fixer des normes, des règles, etc., et pour définir aussi la contribution possible de collectivités locales à la promotion du commerce équitable. C'est en ce sens-là que je disais en préambule que le Nord, la région du Nord-Pas-de-Calais, les départements, même les collectivités, peuvent être à leur tour des acteurs du commerce équitable. Il y a quelque temps, on y reviendra peut-être, d'ailleurs, s'est imposé la notion de territoire du commerce équitable. Il y a des villes, c'est le cas de Nantes, qui a été reconnue, labellisée, territoire du commerce équitable. Donc tout ça pour vous dire qu'au fil du temps, eh bien, le commerce équitable, qui est parti d'idées toutes simples, portées par des petites associations, des individus, des personnalités, est devenue une nébuleuse qui implique toutes sortes d'acteurs, des coopératives de producteurs, les boutiques et les réseaux spécialisés, Artisans du Monde, Oxfam en Angleterre, les marques spécialisées, Etikab, Alter Eco, la grande distribution qui maintenant, je ne sais pas si vous faites... vous accompagnez vos parents, mais il y a maintenant des rayons commerce équitable avec des produits labellisés, vendus sous la marque de l'enseigne. Donc ça, c'est un changement majeur qui pose des problèmes, parce que du coup, ça concurrence des produits historiques, des produits des marques historiques. Et puis, il y a même les systèmes de plantation, ce qui est une aberration. C'est-à-dire qu'il y a des grands systèmes de plantation qui ont obtenu le label commerce équitable, pour pouvoir répondre à la demande croissante à laquelle ne pouvaient pas répondre nos petits producteurs. Donc là, c'est pour certains, c'est une aberration, parce que justement, les systèmes de plantation ont historiquement contribué à l'appauvrissement des petits producteurs. Donc tout ça pour vous dire qu'une belle idée peut justement être victime de son succès, attirer d'autres acteurs qui s'y investissent, mais pas forcément avec les mêmes convictions et les mêmes valeurs que les acteurs historiques. Alors, une nébuleuse, les pouvoirs publics, je n'y reviens pas. Et puis, ce qu'il y a d'amusant de constater, c'est l'apparition de nouveaux acteurs inattendus, comme la Poste. Je ne sais pas si vous avez entendu la Poste communiquer sur le fait que maintenant, elle confiait la confection des uniformes de ses facteurs à des sociétés spécialisées dans le textile, le coton, issu du commerce équitable. Donc tout ça pour vous dire que, voilà, on voit arriver d'autres acteurs dans le champ du commerce équitable qui étaient inattendus il y a encore quelques années. De sorte que, on peut dire qu'il n'y a pas un, mais des commerces équitables. Il y a, grosso modo, schématiquement, l'approche par les boutiques spécialisées qui perdurent, qui subsistent aujourd'hui, et qui vous garantissent le caractère équitable de leurs produits par un travail, un suivi des producteurs, un accompagnement pour leur développement, et puis l'approche par le label qui permet de diffuser ces produits en dehors de ces boutiques spécialisées. Vous avez l'approche qui considère que le commerce équitable est une alternative au commerce international, au capitalisme, et d'autres qui considèrent que non, ça contribue, ça participe du capitalisme et du commerce international, mais en s'efforçant justement de renouveler de l'intérieur les pratiques et les logiques de ce commerce international. C'est en cela que je dis qu'il n'y a pas un, mais des commerces équitables. Alors bien évidemment, et je terminerai par là avant d'amorcer, faire une petite dégustation et d'amorcer la discussion avec vous, la question s'est posée de savoir, d'accord, le commerce équitable, mais quel résultat ? Est-ce que ça marche aussi bien qu'on le dit ? Et force a été de constater que cette question a souvent embarrassé les petits producteurs. Les organismes spécialisés dans l'accompagnement, parce que ils étaient démunis. Donc ils se sont lancés dans des enquêtes, dans des études aux résultats contradictoires. Bon, de sorte que pour un argument favorable, vous pouviez trouver un contre-argument. Oui, bien sûr, ça enrichit tel groupe de producteurs, mais on observe que dans telle autre région, ça ne les enrichit pas, etc. Donc on ne savait pas tellement sur quel pied danser, jusqu'à ce que un gros effort de synthèse de ces recherches ait été fait, et qui permet de distinguer les résultats au niveau macro et au niveau micro, au niveau des petits producteurs. Au niveau macro, en France, très forte progression en 10 ans, des produits, rien que les produits vendus sous le logo Macfabla, représentent un chiffre d'affaires qui est passé de 18 millions d'euros à 287 millions. Dit comme ça peut paraître énorme, hein. Sauf que, je rappelle, c'était fait en petit, donc je rappelle de vive voix, le commerce de détail en France, c'est 447 milliards d'euros. Donc le commerce équitable, c'est très bien, mais c'est quand même, reconnaissons-le, une petite goutte d'eau dans l'océan du commerce rien qu'en France, mais également au plan international, même si, comme l'indique ce tableau, le commerce équitable a eu tendance à progresser très fortement sur différents marchés, dans la plupart des pays développés, aux États-Unis, en Angleterre. Je signale au passage que la France se positionne en troisième position, mais pas forcément quand on ramène la moyenne par habitant. Là, la France est à la traîne par rapport à d'autres pays comme la Suisse, où en moyenne on dépense plus en produits issus du commerce équitable. Cela dit, donc globalement, le commerce équitable à l'échelle du monde, c'est entre 2,4 milliards et 3,5 milliards de chiffre d'affaires à l'échelle du monde. Ça peut paraître énorme, d'autant que c'est des chiffres en progression, mais le commerce international, c'est plusieurs milliers de milliards de dollars. Les flux monétaires, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Et puis les flux financiers, c'est plusieurs milliers de dollars. Donc encore une fois, le commerce équitable, même au plan international, surtout au plan international, c'est une goutte d'eau. Y compris lorsqu'on considère le nombre de bénéficiaires. Le commerce équitable, ça mobilise à l'heure actuelle, c'est le chiffre le plus couramment admis, c'est un ordre de grandeur, 1 500 000 producteurs. Ça peut paraître énorme, et en même temps c'est très peu par rapport aux quasi 3 milliards de pauvres existant sur la planète. Donc, qu'en conclure? Est-ce qu'il faut y renoncer ou considérer que non, ça a un effet aiguillon qui peut, de proche en proche, faire évoluer les choses? C'est une question qui est en débat. Alors, cela dit, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que quand on compare un produit qui est concerné par le commerce équitable avec son équivalent conventionnel, on s'aperçoit que le commerce équitable voit sa part de marché augmenter. Concrètement, en France, le café Arabica, pour prendre cet exemple, issu du commerce équitable, c'est 7% de part de marché en volume et 8% en valeur en grande distribution. Donc ça peut paraître un peu alambiqué, mais l'air de rien, ça n'est pas rien. Le thé, c'est 2% de part de marché. Ça peut paraître rien, mais c'est un chiffre en forte progression. Dans d'autres pays, des produits issus du commerce équitable représentent plus de 50% de part de marché. C'est le cas de la banane en Suisse, où elle est désormais majoritaire. Au plan mondial, les bananes issues du commerce équitable, c'est 15% du marché. Là, ça devient intéressant. Donc tout ça pour vous dire que ne vous laissez pas intimider par les chiffres d'ensemble, il faut ensuite comparer ce qui est comparable, produit par produit. Et là, on observe qu'il y a de véritables percées, des percées spectaculaires du commerce équitable. Au niveau micro, pour nos producteurs, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça apporte quelque chose? Eh bien, il n'y a plus une étude qui a consisté à faire la synthèse de l'essentiel des études qui ont été faites durant les années 2000. Et ce qui permet de ressortir des résultats saillants, des résultats récurrents. Et c'est ainsi qu'on observe que dans l'écrasante majorité des études, il ressort que le commerce équitable, je dis l'écrasante, 87%, a un effet positif en termes de prix. C'est-à-dire concrètement, les producteurs perçoivent un prix supérieur à celui du secteur conventionnel. Donc c'est un résultat non négligeable. Les deux tiers des études qui ont été réalisées de manière disparate, éparpillée, parcellaire, etc., eh bien, des deux tiers de ces études, il ressort néanmoins qu'on observe une amélioration des conditions de vie et de travail de nos producteurs. Ce qui n'est pas rien quand même, et plutôt encourageant. L'écrasante majorité, de la quasi-totalité des études réalisées pendant les années 2000, il ressort un impact positif sur la qualité des produits, avec une certification bio, ce qui permet à nos producteurs de vendre leurs produits plus chers et d'améliorer leur quotidien. Une tout aussi écrasante majorité des études montre qu'il y a aussi des effets positifs sur l'environnement. Et l'impact en termes d'impact environnemental. Là aussi, l'écrasante majorité des études font état d'une augmentation de l'estime de soi par les producteurs. Je vais dire, qu'est-ce que ça a à faire là-dedans? Eh bien, c'est justement en cela que, pour cette raison, que le commerce équitable s'est positionné contre la tradition caritative. Parce que à trop vouloir aider autrui, on l'empêche d'essayer de s'en sortir par lui-même et de tirer une fierté de la réussite de son travail. Alors, il faut l'accompagner, mais justement, l'aider à vivre de son travail. Et des études montrent que des producteurs sont extrêmement fiers de pouvoir vendre leurs produits. Petite anecdote, j'ai eu l'occasion de retrouver ici des producteurs des pays du Sud, et la puissante invitante avait bien fait les choses, avait organisé un séjour à Paris avec visite de la Tour Eiffel, etc. Et j'avais accompagné ces petits producteurs. Visiter la Tour Eiffel, c'était très intéressant, c'est la première fois qu'ils y allaient. Ils étaient assez admiratifs, etc. Mais ce qu'ils voulaient voir avant tout, vous savez quoi? C'était leurs produits dans les linéaires des grandes surfaces. Leurs produits produits chez eux à plusieurs milliers de kilomètres. Et de savoir qu'ils se retrouvaient dans nos grandes surfaces, qu'ils étaient éventuellement achetés par des Français, c'était un motif d'énorme fierté pour eux. Et c'était ce qu'ils voulaient visiter en fait en premier. Voilà, je ferme la parenthèse, mais pour vous sensibiliser à l'importance de l'estime de soi. Alors, attention, à trop regarder les effets micro, il ne faudrait pas oublier la nécessité de continuer à investir dans les infrastructures de transport, dans l'éducation, les hôpitaux. Et une autre erreur serait de croire que c'est au commerce équitable de le faire, de contribuer, de le faire ne serait-ce qu'en contribuant à l'enrichissement des villages. Non, c'est au pouvoir public de le faire. Et moi, ce que je crains, c'est qu'on attende trop du commerce équitable et qu'à trop regarder les effets micro, on oublie que les États, les pouvoirs publics et les grandes organisations internationales doivent continuer à investir pour financer des travaux d'aménagement de grandes infrastructures dans l'éducation, parce que de ça aussi dépend le développement de ces villages. Alors, le commerce équitable, et c'est en cela très intéressant, c'est pas une solution clé en main, c'est quelque chose qui ne cesse d'évoluer. Et la manière dont on pratique le commerce équitable aujourd'hui n'a plus grande chose à voir avec ce qu'il était il y a encore 10-15 ans, parce que d'autres acteurs sont intervenus. Mais ce qui rend aussi le commerce équitable intéressant, c'est que c'est l'objet de controverses, de débats. Ça fait débat, c'est pas une solution miracle, hein. C'est une solution, une proposition qui ensuite se heurte au réel, qui suscite des effets inattendus, qui appelle des objections et qui oblige les acteurs à se justifier ou à trouver des réponses. Alors, et c'est en cela que le commerce équitable est intéressant. Trop souvent j'entends dire, le commerce équitable, moi je m'en méfie parce qu'on dit que ceci et cela. Non, précisément, ce n'est pas une solution miracle, c'est une innovation qui évolue dans le temps et qui, à ce titre, est digne d'intérêt, y compris de par les controverses et les débats que ça suscite. Alors, des débats, il y en a plein. Mais ça, je préfère les garder de côté, recueillir d'abord vos questions pour savoir justement si vos questions à vous recoupent les questions qui font débat. Mais auparavant, peut-être pour vous réconforter, mais continuer quand même dans ma démarche pédagogique, je vous propose de découvrir de plus près le commerce équitable à travers un produit du chocolat. Alors, je vous demande d'être patient. Vous allez pouvoir repartir. Alors, je ne sais pas combien vous êtes. Je crains que vous êtes beaucoup plus nombreux que prévu. Alors vous aurez moins de chocolat, mais vous pourrez faire preuve comme ça de votre capacité à la générosité, voilà. Mais ce que je vous propose dans un premier temps, c'est, alors il y a une tablette, vous repartirez avec, une tablette pour, je crains, 5 ou 10 personnes, hein, carrément. On va déjà commencer par 10 personnes, d'accord, et si plus...
Une tablette.